Un gilet jaune, un gilet jaune.
Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. J'ai dit Macron, démission,
allez, démission.
Macron, démission,
démission.
Macron, démission, Macron, démission. Gilet jaune, ma gilet jaune, demain les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune, ma gilet jaune, demain les gilets jaunes. Faut danser petit. J'ai voulu mettre l'essence,
c'est trop cher.
J'ai payé les taxes,
c'est trop cher.
J'ai voulu mettre l'essence,
c'est trop cher.
J'ai payé les taxes,
c'est trop cher.
Faut cotiser par-ci,
c'est trop cher.
Faut cotiser par-là,
c'est trop cher.
Faut cotiser par-ci,
c'est trop cher.
Faut cotiser par-là. Y'en a marre, y'en a marre. J'vais manifester, donc j'mets mon gilet jaune. Pas gilet jaune, c'est mal les gilets jaunes. Faut danser petit. Gilet jaune, ma gilet jaune, demain les gilets jaunes. Faut danser petit. Les Français en colère,
c'est pas bon.
Ils bloquent les péris,
c'est pas bon.
Les Français en colère,
c'est pas bon.
Ils bloquent les péris,
c'est pas bon.
À cause de la manif,
c'est pas bon.
C'est plus Emmanuel Macron,
Emmanuel Macron.
C'est Manuel Tecon,
Procon.
C'est Manuel Tecon.
Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine.
Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine.
Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine.
Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en piscine.
Y'en a marre.
Il y en a marre, Macron démission. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Mais non, mais c'est le premier vendredi du mois et nous sommes à Canal Sud. Et ben, c'est une exposition qui est en rapport avec cette illustration musicale. L'exposition s'intitule, ça demandera des explications, C17B en marche. Et c'est Jean-Luc Svinger que nous accueillons, bonsoir, et qui s'est installé pendant tout le mois de novembre sur les murs de la radio Canal Sud. Qui a installé ses œuvres, des œuvres très originales. On va en parler. Alors, est-ce que tu nous expliques ce que veut dire le titre, en fait, de ton exposition, C17B en marche ?
Eh bien, c'est un titre que j'avais trouvé déjà l'année dernière. C'est-à-dire qu'un an, jour pour jour, quasiment le 16 novembre, j'exposais dans les locaux de l'association Archipel,
Arnaud Bernard,
et j'étais déjà au courant évidemment de cet appel pour le 17 novembre, donc 2018.
Première manif des Gilets jaunes.
Voilà, donc j'ai un peu anticipé le mouvement dans le sens que j'ai construit l'exposition l'année dernière, un peu par hasard parce que je fais de la récupération, ça on pourra revenir un peu sur les techniques et les modes opérationnels. Et en fait, j'ai trouvé pas mal de chaussures. De femmes maghrébines, surtout dans une poubelle, bon, qui avait l'air d'être à la même personne, hein, parce que, bon, usées, évidemment, c'est pas des chaussures. Hein. C'est pas des chaussures neuves. Et je suis parti sur l'histoire à partir de ces chaussures, sur l'histoire du printemps arabe, et les chaussures qui avaient été envoyées à la tête de Bush pendant une conférence de presse à Bagdad, par un journaliste, qui a été arrêté à l'époque. Et ces chaussures sont devenues le symbole de la révolution du printemps arabe. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un bon lien, enfin le plus direct dans les événements passés par rapport à ce qui allait arriver, qui n'était pas encore arrivé, les gilets jaunes. Mmh. Et là où j'ai un peu anticipé, c'est qu'un gilet jaune, notamment Archipel, j'avais mis en vitrine, il y a plein de gens qui prenaient en photo. C'était assez curieux parce que bon, il n'y avait pas encore d'histoire. Bon. Et je l'ai décroché à la fin du vernissage, c'est-à-dire vers 22h. Et à 6h du matin, j'étais sur un barrage filtrant. Du côté d'Auchan sur la rocade. Donc en fait, pour moi, c'était une exposition, mais en même temps une performance, dans le sens que ça ne s'arrêtait pas simplement à mettre des objets, ou, vous voyez, par rapport à ce qu'on conçoit, je dirais, plus normalement, enfin, entre guillemets, je veux dire.
Parce que c'est intéressant, ce qu'on va dire, c'est qu'à t'entendre parler, ce n'est pas une exposition politique, même dans les bons sens du terme, c'est une exposition, on dira, en marche, comme tu dis, en action, c'est-à-dire en lien totalement avec la réalité. Et puisqu'il n'y a pas de message dans cette expo, au contraire, même, elle est un peu énigmatique, ton exposition ici, mis à part qu'il y a ce texte qui rattache à cette histoire des Gilets jaunes, qui pour toi est un événement que tu suis depuis, comme tu l'as dit, depuis le début. Depuis le premier jour, voilà. On parle de l'expo tout de suite, on rentre dedans.
De toute façon, qu'on le prenne par un bout ou par un autre, de toute façon, voilà. C'est toujours l'exposition. Proprement dit, c'est-à-dire, bon, le fondement de, sur quoi je travaille, et là, j'ai pas arrêté, c'est toujours, je me considère toujours ce que j'appelle plasticien de la conscience, donc je travaille sur la conscience, et ça répond un peu à ton interrogation de tout à l'heure, c'est l'inverse de la propagande, c'est-à-dire créer des prises de conscience à l'échelle individuelle, voire à l'échelle collective, pour que les individus s'en emparent et deviennent leur mode d'intervention. Et ce qui me plaît beaucoup au niveau gilets jaunes, je ne veux pas dire que je revendique les gilets jaunes, rien du tout, hein, je suis tout petit, puis je ne vais pas me faire arrêter demain. Non, je plaisante. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait évolution dans la société, évolution à plein de niveaux, hein, que ce soit politique, social, etc., il faut qu'il y ait des prises de conscience, il faut qu'il y ait des décrochages par rapport à une certaine normalité. Parce que les gens ne se rendent pas compte, je veux dire, qu'ils vivent... Quand on n'a pas les éléments de comparaison par rapport à d'autres époques, ou qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire, ça vient un peu au même, on ne se rend pas compte que tout n'a pas été comme ça, je veux dire, qu'en fait, il y a des milliers, des millions de gens qui se sont battus pour abaisser le temps de travail, et j'en passe, et j'en passe. Ce que Macron essaye, à l'opposé, de faire l'inverse, c'est vraiment le président des riches... Enfin voilà, c'est pour ça que les gens les boutent. Tous les jours, on entend une nouvelle mesure. Donc, quand on voit que c'est parti, par exemple, au Chili, sur l'augmentation des tickets de métro, et le passif qu'il y a déjà derrière Macron en France, mais il y aurait déjà eu 10 révolutions. Je veux dire, mais bon, ça vient tout doucement. Maintenant, je suis pas prédicateur à savoir ce qu'il y aura demain. Hein. C'est pas loin de là. Je participe au mouvement. Après la démarche, bon, au niveau exposition, j'appelle ça politico-culturel, c'est-à-dire à la fois politique, à la fois culturel. Mais à l'inverse d'un message didactique, c'est-à-dire en disant là c'est la solution, là c'est jaune, donc ça c'est le nouveau drapeau.
Ah oui, on n'a pas fait exprès, on t'a mis devant un micro jaune.
Voilà. Et non, parce qu'il faut voir que je me rappelle bien l'année dernière. Je vais quand même rappeler, ça va peut-être rappeler à quelques-uns s'ils m'écoutent. Sur mon site, j'ai des pages Facebook, etc. Il y en a un, notamment, quelqu'un que je connais, qui me dit « Ouais, tu devrais mettre une croix gammée, toi. » C'était extrême droite. Mais à un niveau, mais dingue.
Ça fait partie de la désinformation, voilà, et de la propagande de l'État, pour, à partir d'un ou deux dérapages, voilà, pour discréditer totalement le mouvement.
Et une semaine
en Allemagne, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les gilets jaunes, c'est des trucs d'extrême droite et facho. Quoi.
Non, c'est bien plus... Maintenant, j'ai une autre lecture du mouvement, mais je veux dire, à l'époque... c'est sûr qu'on pouvait se planter. Puis surtout, c'était de l'intox du pouvoir. Ça,
oui,
c'était fait, pas autre chose.
Oui. Justement, on va revenir, parce que quand tu parles, toi, de la conscience, c'est un peu pour agir contre cet intox, contre la propagande. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire, on va dire, dans le milieu de l'art. C'est-à-dire, quand même, tu es un artiste qui se revendique artiste, tu fais des expos, tu as aussi d'autres initiatives, on parlera de la galerie sous les étoiles, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses. Toi, tu as déjà exposé ici à Canal Sud en 2016, justement, pour l'inauguration de cette galerie sous les étoiles, et je trouve que c'est intéressant de voir comment... Non, comme tu dis, je voulais quand même parler de l'expo qu'il y a dans les locaux de la radio. Vous ne verrez pas un gilet jaune d'exposé, ce n'est pas de ça.
Par contre, si, il y en a un.
Oui, mais il est arrivé offert pendant le vernissage.
Non.
Ah non, il y en avait un autre.
Sur les chemises.
Dans les chemises.
Les chemises, il y a un gilet jaune que j'ai travaillé à ma façon.
Donc c'était pour dire qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas de cadre, il y a des grands formats, et on voit des chemises en lin ou en vieux coton, des très vieilles,
voilà. Alors là,
qui sont toutes brodées de la même personne,
avec des initiales,
MP.
Ça doit être de ma famille, ou je sais pas, c'est quelque part, ça doit venir.
Où avez-vous trouvé ces t-shirts-là, enfin,
c'est venu de ma
ces
famille.
Ces vêtements. De la famille. Ah, vous avez puisé dans...
Oui, oui.
D'accord.
Donc elles sont à plat sur le mur, et ça t'a servi de base, de toile, et ensuite, par-dessus, tu as fait le travail que tu fais habituellement.
J'ai épinglé ce que j'ai mis, c'est-à-dire pour pas les dégrader.
Pas les dégrader.
Parce que je trouve que c'est rien que comme ça, c'est des objets qui sont beaux et qui parlent. Tu vois, je veux dire, bon.
Une espèce de chemise à manches courtes... ouverte devant et brodée avec les initiales de la personne.
Voilà. Et pourquoi j'ai mis ces chemises? Bon, voilà, après, c'est vrai que je pars dans des directions, ça doit être ma tête qui fourmille de plein de trucs. C'est qu'en fait, je suis un gilet jaune. Je suis un gilet jaune, bien sûr. Je suis un ventre jaune. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un ventre jaune? Ben, j'ai le ventre jaune. Non, un ventre jaune, on appelle les ventres jaunes les habitants de la Bresse, Bourg-en-Bresse, si les gens connaissent, c'est là quand on parle de Bresse, c'est le poulet, bon, etc. Et à la campagne, jusqu'au début du XXe siècle, c'était la nourriture de base, ça s'appelait les gaudes. Les gaudes, c'est de la farine de maïs grillée, c'est pas la polenta italienne, ça peut ressembler un peu, avec du lait, et ils bouffaient ça tous les jours, midi, matin, et soir, etc. Dans des tables où les assiettes étaient creusées dans la table. Donc, hop, je te sers la louche de gaude. Tu bouffes ça tout la... Bon, ça devait être... fallait avoir faim pour manger ça tous les jours. Et après, un seau de flotte pour faire le lavage des assiettes, creusées dans la table. Voilà pourquoi on appelle les habitants de la Bresse les ventres jaunes. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil. Ces ventres jaunes, il n'y a pas de lien direct. Hein, je veux dire, bon, mais je trouvais ça rigolo, toi. Bon.
Et ces chemises, enfin, c'est un peu le plastron. On ne peut pas dire que c'est le ventre qui est gardé.
Ah ouais, mais alors attends, il faut voir que ces chemises, et là vous commencez à prendre peur, c'était ces chemises-là, vous aviez la chemise, ça remplaçait le slip, presque les chaussettes aussi, je veux dire.
Oui,
non, pas les chaussettes. Mais c'était quasiment l'habit de base.
C'est-à-dire qu'elles étaient très longues, c'est ça, vous voulez dire. Mais c'était... Savez-vous si elles étaient portées par des femmes et des hommes ou que...
Non, par des femmes et des hommes. D'ailleurs, il y en a une de femme que j'ai mis au milieu de...
D'accord.
Voilà. Ça doit être très très souple parce que rien que pour les amener, je ne sais pas, ça pesait au moins 10 kilos facilement.
C'est du lin, c'est ça?
Du lin et de la toile de jute,
ouais. Ce qui est intéressant, c'est cette couleur écrue. Voilà. Et là-dessus, alors là, toi, tu as fait le travail, alors, qu'on peut dire pour certains qui connaissent ton travail, puisque tu travailles avec beaucoup d'objets récupérés, c'est à la fois de la sculpture, de la matière, c'est pas de la peinture, et en effet, tu n'as pas peint sur ces chemises.
La peinture aussi.
Sur les chemises, oui, non, mais pas
non,
sur les
pas
chemises.
Non, pas sur les chemises, voilà. Mais
certains... certains... Alors,
c'est comme des cadres que tu as fait.
Voilà, je vais expliquer un peu. Bon, à chaque fois que je fais un travail dans ce domaine, il faut que j'ai une idée de base, enfin bon, finalité un peu, et la technique, ou les techniques, parce que c'est pas une technique, c'est les techniques qui s'enchaînent, doivent correspondre pour que j'arrive à quelque chose. Vous voyez, bon, je suis pas assez clair ce que je dis, mais par exemple, avant de commencer ce travail, j'ai fabriqué un outil pour pouvoir tresser ce que je récupérais. Parce que je me suis dit, bon, comment je peux faire... Bon, tu parlais de la galerie sous les étoiles, là j'ai fait avec des treillis de bâtiments, vous voyez, des trucs un peu grossiers, pour agencer, récupérer des... Mais là je ne savais pas trop, donc là j'ai un peu innové, donc j'ai fabriqué cet outil, comme un métier à tresser, à tisser, vous voyez, une chose...
Mais donc comme ça, tu as le format, tu as le cadre,
voilà.
Et après tu essaies d'entrelacer ou de... Mais alors, il y a quand même du métal, il y a du tissu, il y a des matières qui ne vont pas ensemble.
Exactement. Alors, ça demande quand même pas mal de notions de savoir où est-ce qu'il va ensemble, parce que quand on parle de la peinture de façon plus classique, bon, entre la peinture à l'huile et les peintures à l'eau, bon, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont pas conciliables. Mais là, non seulement je fais ça, mais en plus, j'ai des matériaux divers, des trucs en plastique, des trucs en métal, des trucs... Et il faut que j'arrive, au bout du compte, à assembler tout ça. Donc les assemblages, ça se fait par de la colle, ça se fait par du métal, du fil de fer, etc.
Mais au niveau de la colle, enfin des colles justement, selon que ce soit du tissu ou du métal ou des canettes recyclées, oui. C'est pas le même type de colle qu'il faut. Fait, comment arrivez-vous à... Vous avez tout un échantillon de colles diverses
dans
et variées.
Dans ma tête, la Sader qui colle bien pour le... la colle blanche, puis la colle à bois pour tout ce qui est bois, papier, etc. Mmh. J'aime bien que ça colle vite, que ça sèche vite surtout. J'aime pas attendre, surtout après t'as plein les doigts, etc. Et après, c'est des colles, je dirais, à l'acétone, toi, pour les plastiques, le fer. C'est presque du domaine sensitif. C'est-à-dire, je me dis... Après, je fais des essais, des fois, je me plante. Hein. J'installe des trucs, il y a tout qui tombe. Bon, je me dis, j'ai pas pris le bon... j'ai pas pris la bonne colle. Mais ça va... Bon, par exemple, pour l'exposition proprement dite, ça va de ce que j'ai créé, que j'ai mis sur les vêtements... La façon de l'accrocher, la façon que je vais concevoir l'exposition, et encore les surprises arrivent au moment où je le fais. Mm-hmm. Tout à l'heure, oui. J'envoie un paquet qui était retombé, je fais des comment ça.
Oui, il y a les tressages, c'est comme des carrés voilà. Tressés, non, puis, et après ils sont présentés sur ces chemises.
Voilà, puis après, suivant le poids, des simples punaises ou des trucs un peu suffisent. Mais si c'est trop lourd, y a l'attraction terrestre qui fait dire le contraire. Donc,
et là, on parle de la moitié de l'expo, en fait, parce que c'est une partie de l'expo, puisqu'après, on retrouve quand même les chaussures. Ça, c'est intéressant, parce que tu as refait un travail sur du bois collé et des couleurs.
Des empreintes.
Voilà, c'est-à-dire que quelque part, des fois, on les oublie presque, les chaussures, parce qu'on voit un tableau, puis après, au bout d'un moment, on dit « Ah, mais il y a des chaussures !» Mais en fait, comme le travail de couleur, de peinture, fabrique une œuvre, quoi.
Voilà, c'est une technique que j'utilise depuis déjà pas mal d'années. J'appelle ça l'auto-camouflage. L'auto-camouflage, bon, pour dire autrement, bon, tous les objets que vous avez autour de vous, chez vous, etc., vous ne sursautez pas quand vous les regardez, parce que vous les connaissez, vous voyez. Ça paraît tellement une impalissade en disant ça c'est une chaise en bois, ça c'est bon. Mais pourquoi ? Ou pour dire les choses autrement, petite devinette, vous levez le matin, vous ouvrez votre fenêtre, pas comme là parce que là il pleuvait, le ciel est tout bleu. Bah, super journée qui se prépare et tout. Pourquoi vous voyez le ciel qui est bleu ? C'est pas de moi ce que je dis, mais bon, j'ai piqué à quelqu'un. Pourquoi vous voyez le ciel qui est bleu ? Alors tout de suite, il y en a qui vont sortir des machins, ouais, parce que la réflexion... Non, parce que vous savez que le ciel est bleu. Et en fait, tout le domaine de la connaissance, on va dire le système cognitif, passe par ce système des choses qui ont été acquises précédemment, surtout pendant la jeunesse, l'école, etc. Des gens, ce qu'on appelle les aveugle-nés, c'est des gens qui sont nés aveugles, je ne vais pas dire que c'est, ça se généralise partout, mais bon, ils n'ont jamais rien vu. Ils entendent, ils ont une partie de nos sens, mais ils n'ont pas la vue. Et par une opération, vers, je sais pas, entre 20 ans, 30 ans, ils retrouvent la vue. Enfin, ils trouvent la vue. Et bien, ils sont aussi désemparés que s'ils étaient aveugles. Parce qu'ils n'ont pas les notions de spatialité. Tout un tas de choses qui nous semblent tellement évidentes, qui ne le sont pas. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je fais le travail à l'envers, je déstructure, par la matière, je ne pourrais pas, mais je déstructure les éléments qui font, comme quoi on reconnaît tel ou tel objet, tel ou tel, l'ombre, la forme, la couleur, etc. Et au bout d'un moment, ces objets sont présents. Je ne les ai pas fait disparaître, je n'ai pas une baguette magique pour les faire disparaître. Mais par contre, on ne les voit plus. On ne les voit plus parce qu'on n'a plus ces repères, ces référents par rapport à ce qu'on connaît, nous. Donc tout le travail que je fais, c'est de la récupération. Je recycle. Donc ça peut être de la récupération dans les poubelles humaines. Bon, j'essaie de faire des trucs bon, qui ne sont pas du domaine en putréfaction. Il y en a qui peuvent faire ça aussi. Hein. Mais c'est pas pour récupérer de la matière première, du métal, du verre, pour aller l'amener à l'usine, pour qu'ils refondent tout ça. Non, pour moi, c'est pour le restituer dans une œuvre. Et c'est ce que j'appelle travailler sur la conscience. J'en ai d'autres de systèmes. Mais c'est une des formes pour matérialiser justement cette histoire de conscience. Vous voyez, on est très très loin du truc politique. Mais après, les choses se rejoignent. Ce que je disais tout à l'heure sur la conscience politique, eh bien, le monde n'avance pas s'il n'y a pas une évolution de la conscience politique. C'est comme ça que ça se passe. Seulement, quels sont les canaux de la conscience ? Jamais lu quoi que ce soit là-dessus. Et moi, je travaille là-dessus.
Et c'est peut-être les échanges aussi, c'est-à-dire
Voilà.
C'est-à-dire toi tu produis, nous on montre à Canal Sud, des gens viennent voir, etc. Et tout.
Exactement.
Et tout ça, ça participe exactement comme toute personne qui fait quelque chose et qui le communique. Moi, il me semble que c'est un peu ce qui est intéressant dans ton travail, c'est quand même c'est un travail qui cherche à communiquer avec les gens, c'est-à-dire voilà, ton travail est fait pour être présenté, il est fait pour s'articuler à la fois autour de ta pensée, mais aussi autour de ce que nous, on peut ressentir. Et ça, c'est important, ça, cet échange. Il me semble qu'il y a une conscience pour soi seul dans un trou.
Ah non, non, non,
ça n'avance pas grand-chose.
Ça n'a aucun intérêt.
Ça peut exister, bien sûr. Y a pas de...
Donner un truc, par exemple, quand j'étais gamin, je peux parler encore
hein. Oui.
Quand j'étais gamin, il y a un truc qui me surprenait, et je n'avais pas du tout dans la tête que je ferais des trucs comme ça, sur, sur la conscience, sur la création et tout. Mais, c'est dû à quoi ? On ne sait pas, hein, je veux dire. Mais souvent, je discutais avec des petits camarades de choses et d'autres. Alors, j'étais peut-être déjà le jeune philosophe en herbe de l'époque, j'en sais rien. Et puis, 2 à 3 jours après, je retrouvais les mêmes personnes et ils me sortaient mes propres phrases, mes propres analyses. Je disais, mais c'est bizarre, j'ai juste parlé comme ça. Il faisait comme s'il le prenait comme pour eux qu'il avait sorti. Bon, j'étais pas jaloux, hein, j'en ai rien à battre. Mais déjà à l'époque, je me disais, c'est bizarre ce phénomène. Et moi, si tu veux, un de mes points de départ, c'est toujours ce que je dis encore aujourd'hui, je préfère avoir avant tout mes idées que celles des autres. Et pour avoir ces idées et pas celle des autres, il faut de l'expérience. Il faut de la vie, de la confrontation. Mais l'autre jour, je me suis accroché avec une personne qui devait être une grande philosophe, je ne sais pas, sur Facebook. Sympa, hein, bon, elle n'a pas pris mal. Sur l'histoire du municipalisme libertaire. On en parle aujourd'hui. L'histoire des élections municipales et tout. Et elle me sort, alors moi j'ai sorti un petit article. Elle me dit, ouais, mais Marx a dit ceci, machin a dit cela. Et moi, je lui dis, toi, t'en penses quoi ? Je dis, tu me sors tes bouquins, mais bon, ça, je peux le trouver dans les livres. Ton expérience, c'est quoi ? C'est quoi qui te fait dire ça ? Cette chose ou une autre chose ? Et en fait, eh ben, je pense que... oui, ça participe justement de la confrontation d'individu à individu, et que de toute façon, que ça soit à un niveau de simple individu, de culture, de pays, etc., on peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre quand on a une expérience. Quand on n'a pas d'expérience, on n'a que l'expérience des livres, ce qu'on raconte d'autres, on n'a pas d'expérience.
Mais c'est une histoire aussi de se nourrir de ce que les autres avaient autour, et après de le digérer, entre guillemets, même si ce n'est pas très beau comme terme, à sa façon pour avoir son idée, si je puis dire.
J'ai pas dit que j'avais pas d'influence. Hein,
non, 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 mais c'est... Je
suis vraiment prétentieux en disant, voilà, je suis sur une planète. Non, non, c'est pas du tout ça. Mais oui, je pense...
C'est que chacun en fasse son miel d'une certaine manière.
Exactement. Quoi. Moi, mais je le vois tout de suite, je discute avec quelqu'un qui commence à me sortir, j'ai lu tel bouquin, bon... Et de fait, je le dis, j'ai très peu lu. J'ai lu 1000 fois plus avec Internet, faire ça veut dire qu'il faut bientôt que je me taise. Alors. Non, c'est sérieux. Là, par exemple, depuis 20 ans avec l'Internet, je ne vais pas dire que je suis devenu un spécialiste, mais bon, par exemple, pour faire une recherche dans n'importe quel domaine, en un quart d'heure, si j'ai l'idée, si j'ai les mots-clés à poser... pas sur la table, est-ce que je faisais du bruit, en un quart d'heure, je trouve la solution au problème. Et aujourd'hui, quasiment, il y a la réponse à toutes les préoccupations. Les seules qui n'existent pas, c'est des trucs, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, etc. Mais ça, c'est un autre problème.
Oui, ce qui est intéressant, moi, je voulais revenir sur ton exposition, parce que je trouve que tu parles d'une certaine façon, mais ce que tu nous présentes, justement, moi, je trouve que c'est pas, ça pose plein de questions, tes œuvres, mais ne donnent pas de réponses. Ce n'est pas des œuvres qui fermées avec une solution.
Non, ouais.
C'est quand même, tu es quand même un espèce d'apprenti sorcier, un petit peu, avec les objets. Parce que ça fait, c'est vrai que tu sais écraser une canette et la poser sur un truc, mais n'empêche que, de cette expérience-là, quand même, à chaque fois, tu tâtes, et là, maintenant, je vais les mettre comme ça, ou comme tu dis, ça va tomber. Et c'est intéressant, ce... Je dirais cette incertitude, parce que moi j'ai toujours peur des certitudes, hein, des gens qui savent. J'aime pas les gens qui savent. Et je pense qu'il faut le doute. Et ah ben pourquoi des chaussures et en fait, bon, toi tu nous livres ton cheminement, tes questions, ton implication avec le mouvement politique des Gilets jaunes, etc. Mais d'une certaine façon, tu ne l'imposes pas dans ce que tu présentes. Comme œuvre, je trouve ça intéressant si tu veux, parce que ça nous laisse une liberté de voir, de penser, de réagir. Et en plus, tu le dis aussi quand même que le côté sensoriel t'intéresse, l'esthétique aussi. C'est-à-dire que tu travailles, quand tu vas mettre une chaussure et tout ça, tu vas essayer quand même que le résultat y ait une esthétique et que les gens, ça les motive un peu de regarder, non ?
Oui, mais tu as mis le doigt sur la réalité. Quand je dis, par exemple, la technique fait partie de l'œuvre, je travaille depuis très longtemps, bon, peut-être des gens, ça ne leur dira rien du tout ce que je veux dire, d'une façon dialectique. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que c'est la dialectique ?
On n'a pas le temps de faire le cours, là.
Bon,
on
ne fait pas un cours, mais bon, du feu, de la fumée, du feu. D'accord ? Bon, dialectique a deux éléments. Quand j'ai des nouveaux éléments...
Mais en populaire, on dit « il n'y a pas de fumée sans feu », c'est une belle dialectique aussi,
oui,
c'est,
oui,
ça dit
bon.
Ça.
Non, mais après ce que je veux dire par là même, voilà, je trouve dans une poubelle tel ou tel objet, je ne sais pas, ce que je veux en faire, je ne sais pas si je veux faire quelque chose, si j'utilise, comment je vais les utiliser, les techniques qu'il va falloir que j'aborde. Donc, ça fait appel à ma mémoire, à plein de choses que j'ai fait auparavant, je ne peux pas y inventer, je veux dire. Mais...
Oui, c'est l'expérience, comme tu dis, au bout d'un moment, c'est sûr que l'approche, elle s'est enrichie de tout ce que tu as déjà
voilà.
fait.
Mais par là même, c'est vrai que je c'est pas ni un truc mystique, c'est pas, je fais pas des incantations pour devant mes canettes de Coca-Cola pour qu'elles deviennent autre chose. Mm-hmm. Non, c'est la matière au sens propre, comme s'il n'y avait rien avant comme explication. Et qu'est-ce que moi je peux en faire et comment les introduire ?
Tu les transformes, tu es un bon transformateur quand même, hein, parce que tu transformes bien les objets quand même.
Alors,
hein.
Pour moi, un tableau qui est réussi, c'est quand les objets, on ne les voit plus.
Oui.
Voilà.
Ou en tout cas, on ne les voit pas, parce que les chaussures, par exemple, sont vides. Mais ce n'est pas la première chose qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit le tableau, puis au bout d'un moment, mais il y a une chaussure en plein milieu, là, mais on la voit après.
Alors,
quoi.
Disons que j'utilise... différentes méthodes. Bon, ce que j'appelle
oui.
l'autocamouflage.
Oui, ce que tu disais, oui.
C'est ce
que j'ai expliqué. Il y a la peinture, le jeu avec la peinture. Oui.
Mais après, il y a... Je ne sais pas si vous connaissez Armand.
Armand, bon, l'accumulation. Même,
voilà, ouais. Lui, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Bon, même si des fois...
brise, il casse et il accumule,
voilà.
Oui.
Je peux accumuler, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Moi, ce n'est pas pour accumuler, c'est pour sortir, on va dire, des objets qu'on connaît de leur contexte. Voilà.
Et donc nous
et mettre des chaussures,
nous obliger
pas de chaussures, des chaussures qui sont pas, etc. fait qu'à un moment, on ne sait plus s'il y a des chaussures,
voilà,
que des
ça. Voilà. Le doute, le doute.
C'est encore un autre domaine, mais ouais. des solutions, enfin, j'en ai une multitude là-dessus.
Et j'ai beaucoup, que le temps avance là.
J'ai beaucoup à écrire. Je vous ferai un livre et puis.
Est-ce que tu veux dire un petit mot alors la galerie sous les étoiles qui est voilà, la galerie sous les étoiles qui est une initiative que tu as eue à côté de Argelès-sur-Mer. C'est en 2016 que ça s'est ouvert, mais depuis 2012, c'était sur le terrain.
Voilà,
en deux mots, parce que...
Vas-y. Bah voilà, c'est mon lieu de création, on va dire, l'été. Là, depuis 2012, bon, au début, je créais surtout avec la machette, parce que c'était la
jungle. Nettoyer le terrain.
Bon, maintenant, c'est à peu près fait, je veux dire, c'est à peu près potable. Ça ressemble un peu à une galerie. Et par exemple, cet été, j'ai fait une fresque de plus de 30 mètres de long, tout avec de la récupération, sur... je fais des trucs sur des gens, je ne me rappelle plus le nom. L'autre avec ses éléphants, là, sur Hannibal. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça ?
Il est passé là.
Alors, je l'ai appelé l'arrêt Nibal ou l'arrêt pipi d'Hannibal sur mon terrain, il y a 2300 ans. Parce que, en recoupant, donc je recoupe aussi des trucs d'histoire ou des gens qui m'ont raconté aussi des choses, fait que s'il n'est pas passé là, il est passé à côté, je veux dire. Mm-hmm. Mais voilà, Argelès, Argile, c'est là où ils faisaient les poteries romaines. Voilà, pour donner quelques éléments. Donc c'est une terre, je veux dire, riche en histoire.
Et après, c'est un lieu où donc il y a exposition, comme tu dis, sous les étoiles. Toujours la nature a une sacrée influence quand même sur toi. Et donc là, d'être en plein air.
Alors, je travaille et la nature. Par exemple, j'ai travaillé cet été ce que j'appelle les jardins verticaux, c'est-à-dire pouvoir faire des jardins le long d'un mur. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire gagner de la place, un grand système. Bon, je rentre pas dans le détail. C'est ça. Et après, les œuvres sous les étoiles, ça veut dire mettre sous la voûte céleste des créations de l'humain, dont je fais partie, je pense, par rapport à l'immensité
du cosmos.
Du cosmos, voilà. Et j'ai pas plus d'explications, j'en cherche pas non plus.
C'est déjà assez vaste, quand même. Quand même assez vaste. Merci beaucoup, Jean-Luc Zwinger, puisque tu exposes à Canal Sud, l'exposition C17B en marche. Mais venez voir ces chaussures qu'on ne voit pas, ces chemises qui servent juste de support et de cadre. Et c'est tout le mois de novembre à Canal Sud. Le vernissage, c'est maintenant, ce vendredi. Donc vous pouvez toujours venir ici, rencontrer donc l'artiste. Et on remet encore un petit peu de son, puisque tu es très attaché à l'actualité, on reste dans la couleur jaune du gilet jaune. Ah oui, les adresses internet, bon, moi j'ai tapé Jean-Luc Zwinger, on trouve. Alors Jean-Luc, oui. Zwinger, Z-W-E-N-G-E-R.
J'ai un nom vachement simple, donc il n'y en a pas trop.
Voilà, il y a Facebook, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs présentations, voilà, c'est ça. Où il y a des textes, où tu expliques ton travail.
Et là, au début, j'ai fait un travail avec le BBB, pour ceux qui connaissent.
Oui, Bonza Baleine à Bosse. Oui.
J'étais accompagné, mais j'étais vraiment agréablement surpris. Personne n'a fait le travail pour moi, mais ça m'a un peu poussé, un peu dans mes retranchements, pour commencer à conceptualiser ce que je suis en train de faire. Mm-hmm. Et écrire, c'est encore un autre
domaine. C'est une autre démarche. Ouais.
Merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui remercie Canal Sud et tout le monde.
Ayana Kamuka Kaka. Allô Macron, mais qu'est pas ça? J'entends des taxes être sur moi. À ce qui paraît, je dois payer. Moi, ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? La France est ruinée. Tu croyais quoi? Qu'on manif plus jamais. J'pourrais faire blocus, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, y'a une veine dans ton lit. Oh Macron! Y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron. Y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Le SMIC par moi, toi tu voles mon argent. J'suis pas ta Brigitte, j'te cracherai pas un molard. Taxe encore y'a R. Vol encore y'a R. Tu voulais être élu, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Façon marine, je l'ai couché. Le jour où tu la croises, faut pas tousser. Tu jouais le sauveur pour nous salir. T'as ruiné toute la France sans faire exprès. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby du Denza. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Non, en gilet jaune baby du Denza. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Non, en gilet jaune baby du Denza.
abonne-toi à ma chaîne. Mets le pouce bleu, abonne-toi. Mets le pouce bleu, abonne-toi. Mets le pouce bleu, abonne-toi. Waouh.